Bonjour à tous, il est 16h à Paris et à La Haye.
Karine Bellicha.
À la une, le régime afghan est dans le viseur de la Cour pénale internationale. Les hauts dignitaires talibans sont accusés de persécuter les femmes. Il s'agit d'un crime contre l'humanité. Stéphanie Maupa, en direct de La Haye, nous expliquera. À Gaza, la situation humanitaire s'améliore depuis la signature de la trêve entre Israël et le Hamas, mais les conditions de vie des Palestiniens restent très précaires après 15 mois de guerre qui ont ravagé l'enclave. Et puis à Davos, Donald Trump s'apprête par visio à intervenir au Forum économique mondial. Nouvelle occasion, sauf surprise, de développer sa vision du monde très éloignée du multilatéralisme prôné par ses partenaires. L'ONU a déjà dénoncé un apartheid de genre. Aujourd'hui, la CPI lance des mandats d'arrêt contre des hauts dirigeants talibans. Stéphanie Maupa, vous êtes en direct de La Haye, siège de la Cour. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Le procureur Karim Khan vise le chef des talibans et le président de la Cour suprême d'Afghanistan. Que leur reproche-t-il exactement ?
Alors, il leur reproche des crimes contre l'humanité, hein, pour persécution contre les femmes et les filles afghanes. Ce sont ces actes qui sont reprochés aux deux responsables et qui portent sur des persécutions abjectes et répétées. Hein. C'est ce qu'a dit le procureur, des persécutions qui ont été commises depuis le 15 août 2024, sur lesquelles le procureur peut avoir des éléments de preuve et qui sont toujours en cours aujourd'hui. Alors, l'accusation suspecte aussi les deux responsables talibans de réprimer toute opposition par des meurtres, des tortures, des viols et des violences sexuelles. Et dans une vidéo postée en ligne, Karim Khan, le procureur, promet d'autres mandats d'arrêt contre des responsables talibans et contre des membres de la branche afghane de l'EI, l'État islamique, dans la province du Khorasan. Le procureur a aussi demandé la coopération des États, hein, dans un contexte où la Cour affronte de nombreuses critiques, dont celle des Occidentaux qui reprochent à Karim Khan le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Dans l'affaire visant les talibans, la balle est désormais dans le camp des juges. Ils peuvent confirmer, amender ou rejeter les demandes du procureur, mais ils n'ont aucun délai pour rendre leur décision.
Stéphanie Maupa, en direct de La Haye. Au Proche-Orient, justement, en Cisjordanie occupée, des centaines de Palestiniens ont quitté le camp de réfugiés de Jenin sur ordre de l'armée israélienne, selon les autorités locales. Mais Israël dément en avoir ordonné l'évacuation. L'État hébreu mène depuis lundi une vaste opération militaire dans la ville. À Gaza, la trêve tient toujours, l'aide humanitaire arrive enfin. Des centaines de camions sont entrés dans l'enclave palestinienne depuis le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Mais après 15 mois de guerre, la bande de Gaza est dévastée. Des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés qui tentent de revenir à leur domicile ne retrouvent qu'un champ de ruines et l'acheminement de l'aide reste très difficile. Écoutez Marc Lassaoui, le responsable Europe de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, principal acteur humanitaire dans la bande de Gaza.
Je ne pense pas qu'on puisse dire que les conditions se soient améliorées drastiquement. Une quantité énorme de convois humanitaires étaient attaqués, pillés par des groupes, par des gangs. C'est quelque chose qu'on risque de continuer à voir si l'aide n'arrive pas en quantité suffisante à Gaza. Il faut aussi savoir que le passage des biens humanitaires est aussi entravé par le fait que les routes soient détruites, ce qui rend le passage des camions beaucoup plus difficile.
Est-ce que aujourd'hui vous voyez une forme de retour d'ordre public dans la bande de Gaza ou est-ce qu'il y a encore une absence d'autorité gouvernante ?
Je crois que c'est un petit peu tôt pour ça. Aujourd'hui, on est dans un moment où le cessez-le-feu vient de commencer. Est-ce qu'on va pouvoir acheminer l'aide alimentaire en toute sécurité et efficacité ? Je crois que cette question serait mieux posée dans quelques jours ou quelques semaines.
Marc Lassaoui, responsable de l'UNRWA, interrogé par Guillaume Delteil. À Davos, la parole de Donald Trump est très attendue. Après ses multiples menaces d'augmenter les droits de douane tout azimut, le président américain interviendra dans une heure par visioconférence au Forum économique mondial. Il devra développer sa vision du monde et des affaires faites de négociations bilatérales, loin du moindre multilatéralisme. Nicolas Feldman.
C'était déjà en 2020 une rupture. À la tribune de Davos, Donald Trump défend sa politique économique désormais axée sur les seuls intérêts des Américains.
L'Amérique est parvenue à adopter une toute nouvelle approche entièrement centrée sur le bien-être du travailleur américain. Chaque décision que nous prenons en matière d'impôts, de commerce, de réglementation, d'énergie, d'immigration, d'éducation, tout cela est centré sur l'amélioration de la vie des Américains ordinaires.
5 ans plus tard, à Davos, Donald Trump devrait promettre d'appliquer les mêmes recettes. Plus de protectionnisme, moins de règles et moins de place à la coopération entre les États, soit l'inverse du modèle prôné à Davos, l'économiste Isabelle Bensidoun, membre du CEPI.
Il n'a pas une stratégie de ce qu'on peut voir à Davos sur un certain nombre de décisions qui doivent être prises en commun. Sur la transition écologique, il faut faire des choses, elles peuvent être que multilatérales. C'est sûr qu'il n'est pas dans la coopération, il est sans doute plus dans la négociation pour obtenir des concessions pour les Américains.
Avec déjà un aperçu de son second mandat dès lundi, Donald Trump a acté le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat ou encore de l'Organisation mondiale de la santé.
Et après son discours, une séquence de questions-réponses est prévue entre Donald Trump et les grands patrons. Avant Davos, Donald Trump a accordé sa première interview à Fox News, sa chaîne préférée, l'occasion de revenir une nouvelle fois sur le dossier de l'immigration et de promettre d'expulser des États-Unis des millions de personnes sans papier. 1500 militaires supplémentaires sont envoyés à la frontière mexicaine. Donald Trump a aussi évoqué les incendies à Los Angeles. Le président américain est attendu demain sur place, alors qu'il a beaucoup vilipendé les autorités locales. Dans la gestion des feux, il envisage d'ailleurs de supprimer la FEMA, l'agence fédérale chargée des catastrophes naturelles. Les États devraient donc gérer seuls ces dossiers sans coordination nationale. En attendant, à Los Angeles, les pompiers sont de nouveau très mobilisés. Un nouvel incendie s'est déclenché hier au nord de la ville. Il avance vite. Des milliers de personnes ont dû être évacuées en urgence et les vents vont se renforcer. Les prévisions météo sont mauvaises au moins jusqu'à demain matin. Mais le gouverneur de Californie est rassurant. Cet incendie est sans commune mesure avec ceux qui ont ravagé la région il y a une quinzaine de jours. En Ukraine, les autorités ont ordonné l'évacuation des enfants dans la région de Kharkiv, une mesure rendue nécessaire par l'avancée de l'armée russe. 16 localités de l'est de l'Ukraine sont concernées. Une tempête s'annonce en Europe. Elle va frapper l'Irlande et l'Écosse demain avant de gagner le nord de la France ce week-end. Les prévisionnistes parlent d'une bombe météorologique, un changement de pression très rapide qui peut être dévastateur. Des vagues de 10 mètres sont attendues et des vents dépassant les 130 km/h. Mayotte, elle, peine toujours à se remettre du passage du cyclone Chido mi-décembre. L'île française de l'océan Indien a été dévastée. Même si les conditions de vie s'améliorent, l'électricité est rétablie quasiment pour tous les Mahorais. La population peine toujours à trouver de l'eau potable. Les supermarchés rationnent le nombre de bouteilles. Les petites boutiques font exploser les prix. Écoutez le reportage à Petite Terre de Justine Rodier.
Les rayons de ce supermarché de la commune de Pamandzi en Petite Terre sont pleins à craquer. Tout le monde patiente, comme Faïza, 22 ans.
Là, actuellement, on attend l'eau, ça fait déjà 3 heures de temps, je pense.
Et pas sûr d'être servi, s'inquiète Fatima, 43 ans.
On attend en espérant avoir juste un pack d'eau, juste ça. On ne sait pas.
Chaque personne ne pourra prendre qu'un pack de 6 bouteilles qui sera vite évaporé, déplorent les clientes. Compte tenu de la chaleur écrasante de l'île, désormais dépourvue d'arbres, dans les rayons, la tension est palpable.
Des fois, on se bat même pour avoir de l'eau.
Un arrêt préfectoral soumet les commerçants à un bouclier tarifaire. Le pack ne peut normalement pas être vendu plus de 6,30 €. Cette enseigne le respecte, mais les boutiques de proximité facturent parfois 12 € le pack d'eau. Fatima ne se fait plus d'illusions.
On ne regarde même pas le prix, parce que si on regarde le prix, on ne va pas boire.
Le cyclone dévastateur de décembre n'a rien arrangé à la situation de Mayotte, mais les difficultés pour trouver de l'eau potable existent depuis des années.
Ça fait au moins un an et demi que c'est comme ça, voire deux. 2 ans que c'est comme ça dans ce magasin.
La population, notamment la plus précaire, n'y a pas accès. Justine Rodier, Pamandzi, RFI.
C'est une confirmation, Emilia Pérez part bien favori aux Oscars. La liste des nommés est désormais connue, le film de Jacques Audiard récolte 13 nominations et c'est un record. Il devient ainsi le film non anglophone le plus nommé de tous les temps. Emilia Pérez raconte la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain. Enfin, un mot de tennis à l'Open d'Australie. Arina Sabalenka s'est qualifiée pour sa 3e finale consécutive. Elle sera opposée en finale à Madison Keys. L'américaine a réussi à se débarrasser en 3-7 disputés de la numéro 2 mondiale, la polonaise Iga Swiatek. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
C'était le journal de Karine Bellicha, 16h10 à Paris.